Lettre à un jeune poète. Rainer Maria Rilke. Lettre 8. Borge Bigard, Fleddy, Suède, le 12 août 1904. Je viens encore m'entretenir un moment avec vous, cher monsieur Capus. Bien que n'ayant presque rien à dire qui soit de quelque secours, d'une quelconque utilité. Vous avez éprouvé de nombreuses et grandes tristesses qui ont passé. Et vous dites que ce passage éphémère, lui aussi, vous a été pénible et vous a contrarié, mais, de grâce, réfléchissez. Ces grandes tristesses ne vous ont-elles pas plutôt transpercé? Bien des choses ne se sont-elles pas modifiées en vous? N'êtes-vous pas devenu autre, en quelque point, en quelque endroit de votre être, au moment où vous étiez triste? Dangereuses et mauvaises sont seules ces tristesses qu'on emporte au milieu des gens pour les estomper. Elles ne font que régresser pour, après un petit répit, se déclarer d'autant plus effroyablement. Elles s'accumulent au-dedans et sont une vie que l'on n'a pas vécue, que l'on a méprisée et perdue et dont on peut mourir. Nous serait-il possible de voir plus la vie que les limites de notre savoir et encore un peu au-delà des bastions de notre intuition? Peut-être alors supporterions-nous nos tristesses avec plus de confiance que nos joies, car elles sont les instants où est entré en nous quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu. Nos sentiments timides et craintifs font silence. Tout en nous se retire. Il naît un silence, et ce qui jusqu'alors était inconnu de tous est là, au beau milieu, silencieux. Presque toutes nos tristesses sont, je crois, des moments de tension que nous ressentons comme une paralysie, car nous n'entendons plus vivre ces sentiments qui nous sont devenus étrangers, car nous sommes seuls avec cet élément étranger entré en nous, car nous a été provisoirement retiré tout ce qui nous était familier et habituel, car nous nous trouvons au milieu d'un passage où nous ne pouvons nous arrêter. C'est pourquoi la tristesse passe, elle aussi. Ce qui en nous est nouveau et est venu s'ajouter est entré dans notre cœur, a pénétré dans sa cavité la plus secrète, et n'y est déjà plus, est déjà dans le sang, et il ne nous sera pas révélé ce qui fut. On pourrait facilement croire qu'il ne s'est rien passé, et pourtant, nous nous sommes transformés comme se transforme une maison où est entré un hôte. Nous ne saurions dire qui est venu. Nous ne le saurons peut-être jamais, mais bien des signes nous l'indiquent. C'est l'avenir qui de cette façon pénètre en nous pour s'intégrer à nous bien avant d'advenir. Et voilà pourquoi il est si important d'être solitaire et attentif quand on est triste. Car l'instant où en apparence rien ne se passe ni n'évolue est celui où notre avenir pénètre en nous, bien plus proche de la vie que cet autre moment bruyant et fortuit où il nous advient comme du dehors. Plus dans nos tristesses nous sommes silencieux, patients et ouverts, plus ce qu'il y a de nouveau pénètre en nous profondément, infailliblement, mieux nous nous l'approprions, plus il sera notre destin. Quand plus tard il adviendra, c'est-à-dire nous quittera pour aller aux autres, nous nous sentirons au plus profond de nous, apparentés étroitement à lui. Et voilà ce qui est nécessaire. Il est nécessaire, et c'est dans cette voie que peu à peu nous évoluerons, que nous ne soyons affrontés à rien d'inconnu, mais seulement à ce qui nous appartient depuis longtemps. Il a déjà fallu repenser tant de conceptions du mouvement. Il va falloir aussi apprendre progressivement à comprendre que ce que nous appelons le destin, loin d'entrer de l'extérieur dans les hommes, sort de ceux-ci. C'est uniquement pour ne pas avoir absorbé leur destinée tant qu'elle vivait en eux et ne pas en avoir fait leur propre substance qu'ils n'ont pas compris ce qui sortait d'eux. Elle leur était si étrangère que dans une confuse terreur, ils s'imaginaient qu'elle venait forcément d'entrer tout juste en eux, car ils auraient juré de n'avoir jusqu'à ce jour jamais rien trouvé de semblable en eux-mêmes. De même qu'on s'est longtemps trompé sur le mouvement de l'avenir. Le futur est fixe, cher monsieur Capus. tandis que nous, nous sommes en mouvement dans l'infini de l'espace. Comment pourrions-nous ne pas éprouver de difficultés? Et pour en revenir à la solitude, il sera de plus en plus évident qu'elle n'est au fond rien que l'on puisse prendre ou laisser. Nous sommes solitaires. On peut se laisser abuser et faire comme s'il n'en allait pas ainsi. Mais comme il serait préférable d'admettre que nous sommes solitaires et partir tout bonnement de cette donnée. Nous sommes pris de vertige, cela se produira sans doute. Car tous les points familiers à nos yeux nous seront retirés. Il n'y aura plus rien de proche, et tout lointain sera infiniment loin. Quiconque, presque sans préparation ni transition, serait transporté de sa chambre au sommet d'une haute montagne, éprouverait semblables sensations. Une insécurité sans pareil à se sentir livré à l'inexprimé risquerait de l'anéantir. Il s'imaginerait tomber, ou croirait être projeté dans l'espace, ou éclaté en mille morceaux. Quel monstrueux mensonge son cerveau ne devrait-il pas imaginer pour récupérer ses sens et y remettre de l'ordre? Ainsi, pour qui devient solitaire, toutes les distances, toutes les mesures changent. Beaucoup de ces changements surviennent brusquement. Et comme chez cet homme au sommet de la montagne, naissent alors des représentations extraordinaires et des sensations fantastiques qui semblent dépasser le seuil du supportable. Mais il est nécessaire que nous vivions aussi cela. Il nous faut accepter notre existence aussi vastement que possible. Tout, même l'inouï, doit y être possible. C'est au fond le seul courage qui nous soit demandé. Être courageux pour faire face à tout ce qui nous adviendra de plus bizarre, de plus étrange, de plus inexplicable. Que sur ce point les hommes aient été lâchés à nuit infiniment à la vie, ces moments appelés apparitions, tout le monde a dit « monde des esprits, la mort, toutes ces choses devenues partie de nous-mêmes, une défense quotidienne les a tant chassés de la vie, que les sens qui nous permettraient de les appréhender se sont atrophiés, sans parler de Dieu. » Mais la peur de l'inexplicable n'a pas seulement appauvri l'existence de l'individu. Les relations d'homme à homme, elle les a aussi limitées et comme retirées du lit du fleuve des possibilités infinies pour les déposer sur un rivage en friche où rien n'advient. Car ce n'est pas seulement à la paresse que les rapports humains doivent se répéter, cas après cas, avec une si indicible monotonie et si invariablement, c'est aussi la crainte de faire quelque expérience nouvelle à l'issue incertaine qui risque de nous dépasser. Mais seul celui qui est prêt à tout affronter sans rien exclure, pas même l'énigme la plus extraordinaire, vivra sa relation à un autre, comme dans une pièce plus ou moins grande. Il apparaît que la plupart des gens ne découvrent qu'un coin de leur pièce, une place près de la fenêtre, un chemin qu'ils font de long en large. C'est leur manière de trouver une certaine sécurité. Et pourtant, combien plus humaine est cette insécurité pleine de dangers qui, dans les histoires de Poe, pousse les prisonniers à explorer d'une main tâtonnante les contours de leurs cachots effrayants et à ne rien ignorer des terreurs indicibles de leur séjour. Mais nous ne sommes pas des prisonniers. Nulle trappe, nul piège ne nous environne. Il n'est rien qui puisse nous effrayer ou nous tourmenter. Nous avons été placés dans la vie comme dans l'élément qui nous convient le mieux. De plus, une adaptation millénaire nous fait tellement ressembler à cette vie que, si nous restons en repos et grâce à un heureux mimétisme, on a peine à nous distinguer de tout ce qui nous entoure. Nous n'avons aucune raison de nous méfier de notre monde, car il ne nous est pas contraire. S'il s'y trouve des frayeurs, ce sont les nôtres. S'il s'y trouve des abîmes, ces abîmes nous appartiennent. Y a-t-il des dangers? Il nous faut alors tenter de les aimer. Et si nous bâtissons notre vie selon le principe qui nous conseille de toujours nous en tenir à la difficulté, ce qui nous paraît maintenant encore absolument étranger, deviendra pour nous absolument familier et absolument fidèle. Comment pourrions-nous oublier ces mythes antiques à l'origine de tous les peuples, ces mythes où des dragons, à l'ultime moment, se changent en princesses? Peut-être tous les dragons de notre vie sont-ils des princesses qui n'attendent que le moment de nous voir un jour beaux et courageux? Peut-être que toutes les choses qui font peur sont au fond des choses laissées sans secours, qui attendent de nous le secours. Aussi, cher monsieur Capus, ne devriez-vous pas vous effrayer quand se lève devant vous une grande tristesse, comme vous n'en avez vu de telle, quand une inquiétude pareille à la lumière et à l'ombre des nuages passe sur vos mains et toutes vos actions. Pensez qu'il se produit quelque chose en vous, que la vie ne vous a pas oublié, qu'elle vous tient dans sa main. Elle ne vous abandonnera pas. Pourquoi voulez-vous exclure de votre vie toute inquiétude, toute souffrance, toute mélancolie, alors que vous ignorez leur travail en vous? Pourquoi vouloir vous torturer en vous demandant d'où tout cela peut bien venir et à quoi tout cela aboutira? Vous savez bien que vous êtes dans des états transitoires et que vous ne désirez rien tant que vous transformer. Si certains de vos états sont maladifs, considérez que la maladie est le moyen qu'a l'organisme pour se libérer de ce qui lui est étranger. Il faut alors simplement l'aider à être malade, à avoir sa maladie dans sa totalité, à la laisser se déclarer, car c'est par là qu'il progresse. En vous, cher monsieur Capus, se passent en ce moment tant de choses. Soyez patient comme un malade et confiant comme un convalescent, car vous êtes peut-être l'un et l'autre. Bien plus, vous êtes aussi le médecin qui doit veiller sur lui-même. Mais dans toute maladie, il est temps de jours où le médecin ne peut qu'attendre. Et voilà ce qu'il vous faut faire avant tout pour autant que vous soyez votre médecin. Ne vous observez pas trop. Ne tirez pas de conclusions trop hâtives de ce qui vous arrive. Laissez-vous faire, tout simplement. Sinon, vous seriez trop facilement amené à jeter un regard lourd de reproche, c'est-à-dire d'un point de vue moral, sur votre passé qui, bien entendu, est impliqué dans tout ce qui vous advient maintenant. Mais la part d'errement, de souhait et de désir liée à votre enfance et agissant en vous n'est pas celle que vous vous rappelez et condamnez. Les conditions extraordinaires d'une enfance solitaire et désemparée sont si difficiles, si compliquées, soumises à tant d'influences, et en même temps détaché de toutes les conditions réelles de la vie, que l'on ne doit pas, quand un vice y pénètre, se hâter de l'appeler vice. Il faut en général user des mots avec prudence. C'est souvent sur le nom donné à un crime que se brise une vie, et non pas sur l'acte anonyme et personnel qui a peut-être été une nécessité très particulière de cette vie et aurait pu sans peine y être admise. Et la dépense de vos forces ne vous paraît si grande que parce que vous surestimez votre victoire. Ce n'est pas elle, la grande chose que vous estimez avoir accomplie, encore que vous ayez raison de le ressentir ainsi. La grande chose, c'est que vous ayez pu remplacer ce leurre par quelque chose de sincère et de réel. Sans quoi votre victoire aussi n'aurait été qu'une réaction morale sans grande portée, alors qu'elle est devenue ainsi une phase de votre vie. De votre vie, cher monsieur Capus, à laquelle je pense en formant tant de vœux. Vous rappelez-vous combien cette vie a désiré sortir de l'enfance pour aller vers les grandes personnes? Je vois maintenant combien il désire quitter les grandes personnes pour en rejoindre d'encore plus grandes. Voilà pourquoi votre vie ne cesse pas d'être difficile, mais voilà pourquoi aussi elle ne cessera pas de grandir. Et s'il me faut encore vous dire une chose, la voici. Ne croyez pas que celui qui essaye de vous réconforter vive sans effort. Parmi les mots simples et sereins qui parfois vous font du bien, sa vie connaît tant de peine et de tristesse qui le laisse loin derrière elle. S'il en allait autrement, il n'aurait jamais pu trouver ces mots-là. Votre Rainer Maria Rilke.